Le Grand Forum des Tout-Petits vous propose les 1000 jours des Tout-Petits, une collection de podcasts destinée à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous, à travers d'interviews exclusives, les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute. Bonjour Ingrid Bizeguet.
Bonjour.
Vous êtes professeur de danse contemporaine et danse thérapeute. Alors vous allez nous en parler un peu plus. Et vous avez notamment créé les méthodes danse périnée et danse naissance. Mais vous êtes, j'allais dire surtout, avant tout, en même temps, une jeune maman, puisque vous êtes une maman Covid ou un bébé Covid. C'est-à-dire que vous avez accouché le 22 mai 2020, juste après le confinement. Et vous allez nous parler justement de cette période un peu particulière, pré- et post-natale, particulière avec la place des émotions, du corporel, en plus c'est votre métier, qui a pris une dimension probablement extrêmement différente. Vous étiez enceinte en mars 2020, quand il couperait du confinement qui est tombé. Comment vous avez vécu l'annonce de ce premier confinement ?
Alors pour moi, ça a été extrêmement difficile parce que du coup, j'ai bossé jusqu'à mars 2020. Mon congé maternité devait commencer le 16 mars. Donc je devais enfin pouvoir me reposer. Et en fait, j'ai appris que j'allais avoir mes deux aînés à charge à la maison sans arrêt, puisque finalement, les écoles ont fermé.
Donc c'est premier confinement et fermeture des écoles. C'était un peu la double peine.
Exactement. Et du coup, je me suis retrouvée assez abandonnée, parce que j'ai dû faire l'école à la maison, m'occuper de ces deux enfants de 8 et 4 ans. J'étais fatiguée et assez épuisée de par la grossesse et puis de devoir s'occuper des enfants aussi, c'était assez compliqué le fait que tout soit fermé, qu'on n'ait aucun soutien social, aucune famille, qu'on n'ait pas le droit du tout d'être en lien avec les autres a été très très compliqué pour moi.
Donc c'est vraiment une période de fatigue, de fragilité, d'isolement, c'est ça? Vous dites abandonné, c'est un mot extrêmement fort, abandonné.
Je me suis sentie vraiment abandonnée et vraiment vulnérable aussi parce que à ce moment-là, on ne pouvait pas recevoir d'aide de l'extérieur. Personne, ma mère ne pouvait pas venir, les voisins ne pouvaient pas venir. C'était pour notre sécurité malgré tout, hein, mais on était obligés d'être isolés les uns des autres.
Oui, et puis tous les accompagnants ou les soins habituels de sage-femme, de préparation à l'accouchement, tout ça finalement tombait à l'eau.
Complètement. Alors pour ma part, c'est un troisième enfant. Du coup, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Je m'apprêtais à pouvoir justement profiter de tout cet accompagnement-là en piscine, danse prénatale que moi je fais, yoga, pouvoir justement aller apprécier ça auprès des autres professionnels. Je n'ai du coup absolument pas pu le faire, mais je n'ai pas non plus pu me préparer. Pour moi, je n'ai pas pu me préparer psychologiquement à cette grossesse en fait, parce qu'il faut du temps à s'accorder à soi. Et j'ai passé mon temps à m'occuper de mes enfants, à donner plutôt que de recevoir. La grossesse, c'est vraiment un moment de don de soi et on a besoin de recevoir aussi, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être cajolé. Certains parlent de materner la mère et là, en l'occurrence, ça n'a vraiment pas été possible.
Ça a été possible les 6 premiers mois, mais c'est ce dernier trimestre qui a été un peu, on pourrait dire, un peu gâché.
Un peu gâché. Alors du coup, ma propre pratique m'a permis de me préparer finalement. Mais c'était très compliqué de pouvoir m'octroyer des moments, rien qu'à moi, dans lesquels je puisse danser, bouger, respirer, me connecter à mon corps en fait, et me connecter à mon bébé. C'était très compliqué. Parce que deux aînés à la maison, déjà c'est beaucoup de travail. Et ce temps qu'il faut pour ce petit être en préparation qui a besoin de temps, de douceur, C'était très difficile.
Alors on va en parler de votre expérience professionnelle qui vous a servi à titre personnel, alors que d'habitude, c'est plutôt apporté par l'extérieur, par des accompagnements, par des soins, par de la préparation. Mais votre suivi de grossesse, très concrètement, il a été complètement chamboulé.
Complètement chamboulé. Alors j'ai été, j'ai presque envie de dire un petit peu traumatisée. Je pense que c'est vers 7 mois et demi. Là, une des sages-femmes de l'hôpital où je devais accoucher m'a appelée en me disant « Alors comment se passe votre grossesse ?» Donc je lui explique que je suis extrêmement fatiguée. Que c'est compliqué pour moi de m'occuper de mes deux enfants, l'un qui a besoin de bouger tout le temps, l'autre qui fait beaucoup de crises d'angoisse, donc je dois beaucoup donner, et que c'est compliqué pour moi. Et elle me dit, mais vous n'avez pas plus de 8 contractions par jour. Je lui dis, mais moi j'en ai au moins 50. Et elle me dit, bah écoutez, on va quand même annuler votre rendez-vous. Bon courage madame, reposez-vous. Et elle raccroche. Et je pense que là j'étais dans un état de sidération en fait. Je ne comprenais pas, d'ailleurs je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là, et pourquoi les rendez-vous ont été espacés, certains ont été carrément annulés. Je me demande si c'est le fait que ce soit une troisième grossesse qu'on se soit dit peut-être...
Elle a l'habitude, elle gère ?
Elle a l'habitude, ça va bien se passer, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai été complètement délaissée. J'ai eu quand même quelques rendez-vous d'échographie maintenus. Du coup, on mettait le rendez-vous avec les sages-femmes à côté du rendez-vous avec l'échographe. J'ai dû aller seule à mes rendez-vous d'échographie parce qu'à ce moment-là, le conjoint n'était pas accepté. Donc, c'était une difficulté supplémentaire de devoir aller seule, apprendre ce que l'échographie allait nous apprendre et le transmettre après par téléphone à l'autre. C'était...
Et alors que votre demande, c'était plutôt un appel à l'aide, de dire « moi j'ai 50 contractions par jour », c'était une espèce de main que vous attendiez et ça a été rigoureusement l'effet inverse.
Complètement l'effet inverse, mais il n'y avait tout simplement pas de préparation à la naissance collective, donc une annulation complète des préparations. Il y avait quelques rendez-vous par téléphone à ce moment-là, mais les sages-femmes étaient prises d'assaut. La plupart avaient elles-mêmes leurs enfants à la maison, donc elles ne pouvaient pas travailler. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une pénurie de sages-femmes, quoi, un trou dans l'accompagnement.
Dans une situation complètement exceptionnelle, avec l'hôpital qui a dû s'adapter, les sages-femmes qui avaient aussi leur vie personnelle, vous en discutiez avec d'autres mamans, avec, alors évidemment pas en physique, mais avec les réseaux sociaux, avec votre réseau ?
Non, j'étais vraiment en lien avec aucune autre maman. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a manqué. Et pour moi, c'est ce qui fait partie, entre guillemets, de ma colère. C'est-à-dire que, effectivement, pour protéger les femmes enceintes, on a arrêté les préparations. On a arrêté tout ce qui était collectif. On les a fait venir le moins possible dans les hôpitaux. Mais on a remplacé ça par rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réseau créé, il n'y a pas eu d'information. C'est-à-dire que je n'ai rien vu, rien lu, même si moi je cherchais, j'ai vu quelques trucs écrits sur les pages de l'hôpital qui disaient si le protocole en place, si jamais le conjoint pouvait être là ou pas, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait rien pour s'occuper des mamans, en fait, pour leur proposer un soutien psychologique ou même des directions, en fait, à prendre, je ne sais pas, faire de la relaxation, mettre de la musique, bouger, c'est-à-dire qu'il n'y a eu absolument aucune information.
Et donc ça a été l'urgence sanitaire qui a primé et finalement pas le temps est pris un peu au dépourvu pour mettre en place d'autres choses. Ce qui doit être un peu différent maintenant puisque on a un peu l'habitude, en tout cas les hôpitaux ont mis en place un certain nombre de choses qui vous ont cruellement manqué à l'époque.
Oui, alors c'est vrai, par contre, je reste persuadée qu'il faut vraiment des messages supplémentaires d'informations pour les mamans sur l'importance du mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préparations à la naissance ont reprise quasiment qu'en visio. Alors c'est vrai que comment faire travailler le corps en visio, c'est assez compliqué. Comment faire participer ce corps, je veux dire, une préparation à la naissance, c'est l'acquisition de compétences, mais c'est aussi un travail corporel, en fait. Un travail corporel parce qu'au moment de la naissance, on va avoir besoin de déconnecter notre néocortex, on va avoir besoin de se mettre en lien avec soi, avec ses sensations, avec ce corps animal. Comment faire ça en visio ? Et aujourd'hui encore, les salles de yoga, de piscine sont fermées. Donc, c'est-à-dire que cet accompagnement ne peut toujours pas avoir lieu. Et je pense qu'il est fondamental pour les femmes de leur dire que bouger est important. Bouger, pas tant bouger dans l'espace, remuer les bras, mais être au contact de ses sensations, de l'imaginaire, être en lien avec le corps, le ventre, le périnée, le bassin, la cage thoracique. Tout ça, c'est du mouvement et c'est ça qui manque.
Et d'être connecté. On va en parler, notamment comment votre expérience professionnelle et les méthodes que vous avez inventées, hein, danse et périnée, danse naissance, ont pu vous aider, ce qui n'a pas été le cas avec d'autres personnes qui se sont retrouvées probablement dans la même situation, mais un peu prises au dépourvu. Mais vous parliez de la naissance, justement. En quoi l'expérience de l'accouchement a-t-elle été différente des précédentes ? Vous êtes maman de 3 enfants, donc vous aviez l'expérience de 2 précédents accouchements. Comment ça s'est passé, ce troisième ?
Alors, justement, c'est là que finalement, pour moi, il y a eu quelque chose une petite chose qui a été positive là-dedans. C'est le fait que j'ai pu me connecter à moi, être en lien vraiment avec moi. C'est-à-dire que finalement, comme je suis allée seule à la maternité en voiture, puisque de toute façon, mon conjoint n'avait pas le droit d'être là pendant la consultation. Donc, j'y suis allée seule.
Il n'a pas assisté à l'accouchement
Il a assisté à l'accouchement, mais je veux dire, j'y suis allée seule, quoi, en voiture. Moi, je suis du genre un peu autonome. Donc, j'y suis allée seule parce que c'était un moment où j'étais en train de vivre quelque chose avec moi-même. Le fait qu'il n'y ait pas de préparation a fait qu'il y a une grande salle vide à la maternité. Une salle qui d'habitude accueillait les préparations à la naissance. Et donc, on m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez aller là-bas bouger un petit peu. Donc, totalement seule, j'ai passé 2 heures dans cette pièce-là à bouger, à ressentir mon corps, à me bercer, en fait, à écouter ce dont mon corps avait besoin et à faire ce dont il avait besoin. Le moment où j'avais besoin de m'étirer, de rouler, de me mettre au sol, je dirais vraiment que c'est un moment où je me suis mise un peu dans un état animal, en fait, où j'ai ouvert la bouche, où j'ai pu bâiller, peut-être tirer la langue, faire des choses que je n'aurais pas pu faire si jamais j'avais été entourée ou au contact d'autres humains, finalement. J'ai réussi à dépasser ce conditionnement, ce qui a fait que le travail a beaucoup avancé et ce qui a fait que j'ai accouché sans péridurale très rapidement.
Qu'est-ce qui vous empêchait de faire ces mouvements, ces bâillements, ces gestes à la maison ?
Alors, je les ai faits à la maison aussi, mais à la maison, il y avait des enfants, il y avait ma famille, C'est-à-dire que du coup, une des choses, par exemple, qui était très angoissante à l'idée d'accoucher un peu prématurément, enfin, en tout cas, quand le confinement n'était pas levé, c'était de savoir ce que j'allais faire de mes enfants, en fait. Où est-ce que je les mets ? Enfin, je veux dire, rien n'est prévu d'ailleurs.
La logistique.
La logistique. Rien n'est prévu pendant un confinement. Pendant ce confinement-là, rien n'était prévu pour accueillir les enfants des femmes qui devaient accoucher. Donc à un moment, je me suis préparée au fait que j'allais de toute façon être seule parce que mon mari devrait sans doute garder les enfants.
C'est ce qui s'est passé ? Non, il a pu venir quand même. Et comment vous avez géré les choses ?
Il a pu venir. Alors, de toute façon, à la moitié du confinement, j'étais tellement épuisée et tellement mal qu'une de mes amies sage-femme m'a dit « Ingrid, il faut que tu donnes tes enfants à quelqu'un, il faut que tu te reposes. » Donc du coup, je les ai laissés à mes parents. C'est assez incroyable parce que, en même temps, à la maternité, les quelques rendez-vous que j'ai eus ou cette sage-femme que j'ai eue au téléphone m'a dit « Reposez-vous ». Donc moi, mes enfants sont allés 4 jours chez mes parents, puis sont revenus et les sages-femmes à chaque fois m'ont dit « Ça n'est pas raisonnable de récupérer vos enfants parce que c'est un risque de contamination ». Du coup, on me demandait de me reposer, mais en même temps, il n'y avait absolument pas le moyen de le faire. Donc du coup, on a pu malgré tout déposer mes enfants dans ma famille.
Et l'expérience de l'accouchement, en proprement parlé, donc vous êtes reconnecté à votre corps, votre conjoint a pu venir et ça s'est déroulé rapidement.
Alors très rapidement, c'est assez incroyable parce que finalement, entre mes 3 accouchements, j'ai réussi petit à petit à comprendre qu'il fallait une déconnexion du cerveau du cerveau de nos habitudes, quoi, du cerveau qui nous permet de bien nous tenir, de bien parler, et que ça prend du temps, cette déconnexion-là. Et c'est ça, en fait, dans l'idée de partager le mouvement, de danser ou de faire du chant prénatal ou peu importe quelle activité, mais qui permette de se déconnecter.
Et c'est tout l'enjeu de la préparation que là, vous n'avez pas pu avoir.
Oui, si on peut dire préparation, parce que finalement, c'est une déprogrammation plutôt qu'une...
C'est une dépréparation.
C'est une dépréparation, en fait, voilà. Finalement, c'est des séances pendant lesquelles on déconnecte notre cerveau du langage, notre cerveau des règles, notre cerveau des apprentissages, et qu'on réussit à se connecter à son soi comme une louve, une souris, une ours, en fait. Et ces séances-là, de préparation, nous permettent justement de ne plus être dans le langage, de ne plus être dans... Alors, moi, justement, mon problème, c'est ça aussi. Moi, j'ai accouché sans masque, et heureusement, je n'ai pas eu à en mettre un à cette époque-là. On ne me l'a pas demandé. Je me demande de quelle façon ce cerveau-là peut se mettre en place. Enfin, moi, je veux dire, à ce moment-là, j'étais incapable de savoir si j'avais un masque ou pas, quelle distanciation sociale j'avais avec la personne d'à côté. C'est-à-dire que, du coup, ça demande aussi... Ça vient en contradiction avec ces mesures Covid, en quelque sorte, quoi. Donc je me dis que c'est d'autant plus important de mettre les femmes en mouvement qu'elles auront peut-être des injonctions importantes quant à la distance de la personne d'à côté, des masques ou un accoutrement particulier, qui fait que ça va être peut-être encore plus difficile d'aller à la rencontre de cette animalité en soi.
Quand vous dites que ça s'est passé rapidement, ça s'est passé plus rapidement que les... On sait que physiologiquement, c'est plus rapide généralement quand on est multipare, comme on dit, quand on est un troisième ou quatrième accouchement. Mais est-ce que vous pensez que cette reconnexion plus rapide, là aussi, elle était liée aux circonstances exceptionnelles que vous viviez ?
Alors, je ne sais pas si jamais la crise Covid a fait que j'ai pu plus me connecter à moi-même. Je ne sais pas vraiment. En tout cas, le fait est que j'ai pu passer 2 heures dans cette salle-là, mais peut-être que si j'avais accouché à la maternité des Lilas dans la salle nature, ça aurait été la même chose à un moment sans Covid. Par contre, ce qui est certain, c'est que cet accouchement sans péridurale a pu avoir lieu et cet accouchement rapide a pu avoir lieu parce que les mouvements dans lesquels je me mettais m'ont permis d'atténuer la douleur ou en tout cas que cette douleur soit... prise comme une information, c'est-à-dire que tout au long de ma grossesse, et en fait c'est ce que je fais faire aux femmes depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'on essaye de découvrir des sensations en soi, et ces sensations-là, en fait, c'est-à-dire que si je demande à une femme « qu'est-ce que vous sentez ?», elles vont me dire « j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal ». Et en fait, c'est-à-dire trouver qu'en soi, il y a des sensations qui ne sont pas douloureuses, des sensations de chaud, de froid, d'espace, de distance, de poids. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est contourner le fait qu'une sensation soit douloureuse. Non, une sensation est un message, et un message d'une étape, et en fonction de ça, je vais pouvoir adapter ma posture. Je vais pouvoir passer sur le côté, lever un bras, tourner une jambe en dedans. Finalement, je vais danser.
et vous allez compenser finalement ou chercher autre chose, chercher le positif dans ce qui apparaît comme étant quelque chose de négatif. Mais ça, si vous avez pu le faire, c'est votre culte de danseuse, de formatrice, qui a pu, de thérapeute, j'allais dire quasiment, qui a pu vous permettre de plus rapidement connecter à vous-même.
Complètement. Mais c'est aussi... du coup, pour moi, ça vient aussi d'un problème, une solution qui vient d'un problème. C'est-à-dire que l'hôpital, aujourd'hui, accueille les femmes pour les faire accoucher. Et finalement, il y a beaucoup de restrictions, encore plus en ces temps Covid. Mais je veux dire, il y a la taille de la salle, il y a le lit sur lequel on doit se mettre. Il y a finalement, tout est assez restreint. Il y a une durée dans la salle de travail, après une durée dans la salle de naissance. Et finalement, on aurait besoin de plus de liberté pour aller à l'écoute de soi, pour savoir ce qui est à faire au moment où on a quelque chose à faire. Alors, l'hôpital est un lieu un peu restreignant, c'est vrai. Le protocole sanitaire aussi est encore plus restreignant. Et cette période a emmené tout ça à son paroxysme, en fait, finalement. C'est fou qu'il y ait une mode avec les salles nature. Une salle nature, par exemple à la maternité Lilia, il y a une salle nature dans laquelle il n'y a pas de lit, où il n'y a pas de... Donc, c'est-à-dire que la femme est libre de bouger comme elle le souhaite.
Oui, c'est l'exception, alors que ça devrait être finalement dans toutes les maternités. D'accouchement, c'est par définition une salle nature.
Complètement, ça devrait être une salle nature. Et parce que c'est cette salle-là ou cette ambiance-là qui permet le processus physiologique des choses, en fait. C'est-à-dire tout se met en place directement. On ne devrait pas avoir à intervenir. Bien sûr, évidemment, on sauve des gens, et on sauve des mamans et on sauve des bébés. Ça n'est pas du tout ce que je ne veux pas du tout remettre ça en question. Mais effectivement, on devrait être beaucoup plus libre. Par exemple, je demande souvent à mes élèves, est-ce que vous avez le droit, si vous avez envie, d'ouvrir la bouche et de tirer la langue en salle de naissance? Et en fait, oui, on peut le faire. On devrait avoir le droit de rugir, en fait, même. C'est-à-dire que c'est la connexion à cet instinct-là, et on ne s'autorise pas à le faire, parce qu'on est au contact d'autres personnes civilisées comme nous, et qu'on n'arrive pas à faire appel à ce nous animal.
Et à ce déconditionnement qui est nécessaire. C'est vrai qu'avec les masques, vous le disiez, c'est peut-être encore plus compliqué. Quid du post-natal, après l'accouchement, qui s'est passé rapidement, et bien... Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Alors, pour moi, du coup, ça, c'est la chose qui est vraiment positive, le fait qu'il y ait peu l'autorisation de visite à la maternité, et pour moi, assez important, parce que la femme a besoin de se lier à son bébé. Autant que la louve va dans son terrier une semaine avant de mettre bas, la femme aussi a besoin de cette solitude-là, en fait. Solitude, pas isolement total, mais c'est-à-dire avec une ou deux personnes qui l'accompagnent, mais pas plus. Et je pense même que c'est ça qui peut nous permettre d'être dans cette sorte d'animalité. J'ai une de mes élèves qui m'a raconté que quand elle a accouché, après, elle a léché son bébé. Elle ne sait pas du tout pourquoi, c'est l'instinct qui a fait ça, un réflexe. Ouais. Et du coup, pour la mise en place de l'allaitement, le sommeil du bébé, le repos de la mère après, ça par contre, c'est plutôt bien qu'on soit... au calme.
Et donc là, ça a été positif parce que ça a permis de tisser ce lien, parce qu'il y avait les protocoles sanitaires et qu'il ne fallait pas que le virus vienne, que des gens circulent, etc. Et là, ça a été très positif pour vous.
Complètement, mais en même temps, la femme qui vient d'accoucher a aussi besoin de soutien et a aussi besoin de monde autour d'elle. Il y a beaucoup de cultures où on amène à manger à la femme qui reste allongée longtemps. Et là, c'est vrai qu'il y avait quand même un certain isolement. Aussi parce que c'était mon troisième enfant, je savais qu'il fallait que je me prépare en amont, quoi, de la logistique en fait, avoir suffisamment à manger, les choses qu'il fallait, donc ça a demandé pas une adaptation quand même.
Vous avez écrit un témoignage sur votre page Facebook et sur votre blog qui a reçu beaucoup d'échos, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors j'ai écrit un texte qui s'appelle « Confinement, ce n'était pas le moment de tomber enceinte », parce que enceinte, c'est une réflexion qu'on m'a fait plusieurs fois, c'était pas le moment d'être enceinte. Alors c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Enfin, c'est-à-dire que même, je ne pouvais pas savoir que le Covid allait arriver quelques mois plus tard. Et ce qui montre bien finalement que ça paraît être un problème supplémentaire, la grossesse, pendant cette période de Covid. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'il faut faire, il faut sauver la population. Et en plus, il y a des femmes enceintes qu'il faut accompagner. C'est compliqué.
Et les témoignages de maman, c'était quoi ? L'isolement, la vulnérabilité, la fragilité que vous aviez ressentie ? Il y avait beaucoup d'échos, beaucoup de femmes qui se trouvaient dans la même situation ?
Alors, énormément. Il y a énormément de femmes qui sont, je ne dirais pas déçues, mais je ne sais pas si on peut être vraiment déçues, mais d'avoir accepté des déclenchements de convenance pour être sûre que leur conjoint serait là, parce que la semaine suivante ou celle d'après, il y allait avoir de nouvelles adaptations du protocole sanitaire, en fait. Donc oui, il y a des femmes qui ont dû mettre de côté leurs souhaits. Et est-ce que ce sont des souhaits ? J'ai pas mal entendu parler de caprices, et pour moi, ce ne sont pas des caprices, ce sont des besoins viscéraux. En fait, on ne peut pas faire autrement que de vouloir être entouré par, par ceux qu'on aime et qui nous soutiennent au quotidien. Il y a une femme qui m'a dit, une auxiliaire de puériculture, qui a dit « c'est pas très grave si jamais le papa ne voit l'enfant que 3 jours après ». Mais bien sûr que si, c'est extrêmement grave. Les liens se tissent dès la naissance, en fait. Ne serait-ce que pour le devenir père aussi. La place du père, en fait, il n'est pas non essentiel. Il doit être là autant que la mère. Il ne porte pas l'enfant, mais...
Vous êtes danseuse, vous accompagnez des mamans, on l'a dit, ou des futures mamans par la danse. À votre avis, quels sont les effets justement de ces restrictions sanitaires et comment on peut lutter contre ? Alors on va essayer d'être positif, on voit que c'est effectivement des difficultés, mais c'est aussi des opportunités. Comment vous saisissez ces opportunités et vous les proposez même à ces futures mamans ?
Alors moi, je pense qu'il faudrait vraiment dire aux femmes, même chez elles, même seules, même avec leurs enfants ou avec du monde autour d'elles, qu'il faut qu'elles pratique une activité physique. Une activité physique ne veut pas dire mettre de la musique et danser ou faire du step. Ça veut dire prendre le temps de se poser sur le sol, de respirer, de s'étirer, de tourner. Et je pense même qu'il devrait y avoir des plateformes collectives où on montre des vidéos, où on partage des exercices. Parce que tout passe par là, finalement. Aujourd'hui, avec la visio, c'est encore le néocortex qui fonctionne. C'est encore le langage qui fonctionne. Et je ne sais pas quelle est la qualité de cette préparation de la naissance par visio. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut soi-même prendre en main... je dis pas qu'il faut prendre en main sa préparation, mais se mettre au tapis soi-même, y aller, c'est une idée d'empowerment, quoi. Ça n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire pour nous, en fait. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on se balance, il faut qu'on s'étire, il faut qu'on respire.
Covid ou pas Covid ?
Covid ou pas Covid, mais c'est-à-dire que cette crise du Covid restreint encore plus nos libertés en maternité, restreint complètement nos possibilités de mobilité en salle de yoga, en salle de piscine. Plus rien n'est possible. Donc en fait, c'est à nous de le faire parce que ça, c'est indispensable en fait.
Et de manière instinctive, sans forcément avoir un prof, sans forcément attendre quelque chose qui est un autre conditionnement social, ce que vous appelez le néocortex, quoi, ce conditionnement. Ça, il n'y a pas besoin finalement, c'est se connecter à ses propres instincts et réflexes.
Complètement. Il y a pas mal de lectures, il y a beaucoup de lectures là-dessus sur le fait. Alors moi, je pense aussi qu'il faut aller regarder, par exemple, des mammifères qui mettent bas en vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'elles bougent, elles tournent, elles sentent, elles se roulent, elles gigotent. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. En fait, ce sont des verbes d'action, quoi. Se mettre en travail, se mettre en mouvement. C'est à nous, les femmes, de bouger. Et cette crise-là nous ramène encore plus à ça. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas nous apporter... Ce qu'on ne nous apporte pas pour nous protéger, mais ce qu'on ne nous apporte pas, c'est à nous d'aller le trouver aujourd'hui.
Et à l'intérieur.
Et à l'intérieur de nous, en fait, parce que c'est dans nous, c'est notre instinct, en fait. Notre instinct de mammifère. Tirer la langue, se rouler par terre, mettre les pieds en l'air, c'est par ça que ça va passer, en fait.
Vous avez beaucoup parlé de liens avec la famille, qui est parfois un peu distendu, mais de liens surtout avec l'enfant qu'il faut d'emblée tisser. Il y a un lien supplémentaire avec votre petit garçon, c'est que vous êtes né le même jour, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, il est né le jour de mon anniversaire. Alors ça a rajouté cette époque dans laquelle on vit avec des téléphones et des visioconférences, ça fait que pendant toute cette journée, j'ai eu des appels en visio pour me souhaiter mon anniversaire, donc c'est assez curieux. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, je pense que le Covid m'a peut-être enlevé une partie. Je ne sais pas si jamais je ne vis pas encore une certaine frustration. Beaucoup de femmes le vivent, beaucoup de femmes qui ont accouché pendant cette période ou étaient enceintes pendant cette période le vivent. Je ne sais pas s'il va falloir du temps pour digérer, en fait. Je vis encore une certaine frustration. Et encore plus, alors je ne sais pas si c'est encore plus ou pas, mais le fait de partager maintenant mon anniversaire avec lui fait partie de l'étrangeté de la chose, quoi.
Et de cette année si particulière, oui. 2020. Et oui. Puis on peut dire quand même que les sages-femmes, les maternités, les obstétriciens, les choses ont changé entre le confinement de mars 2020. Ils ont aussi beaucoup appris et beaucoup changé les pratiques, probablement.
Complètement. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses assez déshumanisantes qui ont été faites. Enfin, déshumanisantes encore dans cet esprit mammifère.
Dû à l'urgence.
Dû à l'urgence, exactement. Et moi, j'étais, en tout cas dans la fin de ma grossesse, certaines fois, j'ai été face à des choses très difficiles.
Merci, Ingrid.
Merci à vous.
Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast de la collection des 1000 jours des tout-petits, qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficace pour améliorer vos connaissances.